Donc oui, je suis chercheur à l'INSERM, mais je suis à la retraite, hein, ce qui me laisse un petit peu plus de temps pour justement militer dans le mouvement l'environnement. J'interviens aussi au titre du réseau Environnement Santé. Juste deux mots sur le réseau Environnement Santé. C'est un réseau qui est porté par André Sicolella. Et disons, le combat du réseau Environnement Santé se porte sur la reconnaissance des pollutions environnementales sur justement l'incidence des maladies chroniques. Alors j'entends par maladies chroniques cancer, diabète, obésité, maladies neurocomportementales et également les problèmes, troubles de la reproduction. Et cette action, donc, on la porte à travers ce qu'on voudrait donc amener, c'est un changement de paradigme de l'évaluation de la toxicité de ces polluants, car on est encore, à notre époque, on reste toujours sur le vieux principe qui a été dicté par Paracelse au XVIe siècle, qui est c'est la dose qui fait le poison. C'est pour ça qu'on entend toujours les agences sanitaires et les industriels vous dire, mais de toute façon, vous inquiétez pas, c'est en dessous des normes, c'est en dessous des doses, et puisqu'on est en dessous des doses, c'est pas toxique. Voilà. Et donc ça, on l'entend effectivement aussi dans le problème des gaz de schiste. De toute façon, les produits sont tellement dilués que c'est pas toxique. Or, nous, ce que nous disons, et il n'y a pas que nous, mais disons, c'est les études scientifiques qui le montrent, c'est que effectivement, pour beaucoup de polluants, comme en particulier les perturbateurs endocriniens qu'on retrouve dans les substances injectées sous-sol, dans le sol, eh bien, ces produits-là ne répondent pas à la dose, c'est à la dose qui fait le poison. C'est-à-dire, ce sont des perturbateurs endocriniens et ils répondent plutôt à un nouveau paradigme de toxicité qui est celui de c'est la période, c'est l'accumulation et c'est le mélange des polluants qui fait le poison. Et ça, c'est quelque chose d'énormes difficultés à le faire passer au niveau des agences sanitaires, bien sûr au niveau des industriels, mais on ne désespère pas puisqu'il y a déjà quand même des progrès qui ont été obtenus, puisqu'on a réussi à faire interdire le bisphénol dans les biberons, récemment un vote à l'Assemblée nationale sur les phtalates, mais enfin bon, la bataille n'est pas gagnée pour autant. Alors donc c'est ce combat-là sur les pollutions qui nous anime, et bien sûr, le réseau Environnement Santé s'élève fermement contre justement l'exploitation des gaz de schiste parce que, effectivement, c'est rajouter de la pollution à une pollution déjà existante. Alors, cette pollution, on pourrait la classer. Il y a deux grands types de pollution dans les gaz de schiste. Tout d'abord, une pollution au niveau des nappes phréatiques et une pollution au niveau donc atmosphérique, une pollution aérienne. Alors, Fabrice et François ont parlé effectivement du problème des produits chimiques. Alors, on peut se dire, mais pourquoi mettre des produits chimiques sous terre? Il suffirait d'envoyer de l'eau, du sable pour écarter les failles et puis récupérer le gaz. Ce n'est pas si simple que ça. Et effectivement, ils injectent dans ce mélange eau-sable des produits chimiques. Alors, ces produits-là ont différentes fonctions. Il y a des grands groupes de molécules qui sont utilisées. Alors, il y a par exemple des agents de soutènement, des réducteurs de corrosion, des fragmentateurs, des antibactériens, des agents moussants, des agents anti-moussants, parce que si ça mousse trop, il faut empêcher que ça mousse, des acides, enfin bref, tout un tas de molécules qui sont en mélange. Alors, c'est vrai que l'industrie de l'exploitation des gaz de schiste tient secrète les formules, enfin les compositions des mélanges. Alors, c'est soi-disant sous le sceau du secret industriel, mais c'est surtout parce qu'ils n'osent pas trop montrer la composition chimique, parce qu'effectivement, il y a des produits très dangereux. Alors, cette liste, malgré tout, elle a pu être publiée, elle a pu être connue, et ça, c'est grâce, disons, à l'Agence américaine de protection de l'environnement, l'EPA. Et cette liste existe, on peut très bien la consulter sur Internet. Vous allez sur Internet, vous faites la liste, vous tapez EPA, et puis vous trouvez la gaz de schiste, enfin, pas gaz de schiste, mais shale gas. Et donc, on a accès à cette liste et on identifie à peu près 600 à 700 molécules. Et alors, comme ces 600 à 700 molécules sont utilisées dans différents mélanges, c'est pour ça que vous pouvez voir qu'il y a tantôt, on parle de 800 mélanges, 1000 mélanges, 2500 mélanges, effectivement, parce que chaque molécule va servir à faire différents mélanges. Et il y a un travail qui a été donc publié par une équipe américaine, l'équipe de Theo Kolborn, qui préalablement, c'était la directrice scientifique du WWF. Donc, a publié une étude où ils se sont, je dirais entre guillemets, amusés à donc identifier ces molécules. à travers des prélèvements des fois plus ou moins sauvages, et puis à travers ce qu'on pouvait connaître par la bande, comme ça. Et ils ont, donc je résume un peu le travail, hein, ils ont identifié à peu près 45% des molécules qui sont utilisées dans l'hydrofracturation. 45% sont des produits donc cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, donc toxiques pour la reproduction. 45% des autres molécules sont des perturbateurs endocriniens. Donc je vous ai dit tout à l'heure en quoi les perturbateurs étaient dangereux, parce qu'effectivement, on ne peut pas les considérer comme des poisons habituels, mais comme des molécules qui, bien souvent, agissent plus fortement à faible dose qu'à forte dose. Donc on ne peut absolument pas prédire la toxicité d'un perturbateur endocrinien en se disant à telle concentration, on ne voit pas d'effet, donc le produit n'est pas toxique. Non. Peut-être qu'à des doses plus faibles, ça agit comme une hormone, hein, ça prend la place d'une hormone. Et donc, à des concentrations plus faibles, on peut avoir un effet toxique. Et puis, seulement 10% des molécules qui sont utilisées dans l'hydrofracturation, 10% sont sans effet. Alors, on trouve des molécules comme le benzène, sympa hein, le benzène, naphtalène, des hydrocarbures, des éthers de glycol, ça aussi, des molécules qui sont classées cancérigènes par le Centre international de recherche sur le cancer. Des organochlorés, éthylbenzène, oxydéthylène, enfin bref, on pourrait passer la soirée, la fin de l'après-midi, à énumérer tous ces produits. Notre problème aussi, c'est le méthane. François en a parlé, hein, cette fameuse séquence dans Gasland, que je vous invite à aller voir, on le trouve sur Internet. Hein. Alors il y a des versions courtes, la version longue, des versions intermédiaires, etc. Mais pratiquement toutes les versions, vous tombez à chaque fois sur cette séquence assez extraordinaire où, effectivement, lorsqu'on met le briquet près d'un robinet, l'eau s'enflamme. Alors on pourrait dire, ouais, c'est peut-être juste un cas comme ça, c'est un coup de bol. Bon. Et d'abord, dans le film, on voit que ça se reproduit dans plusieurs endroits, dans plusieurs États des États-Unis. Et justement, chose très intéressante, un article scientifique qui est sorti dans la très sérieuse revue PNAS, qui est la revue de l'Académie des sciences, de l'Académie des sciences américaines, un travail qui montrait qu'effectivement, le méthane, donc qui est extrait à partir des zones d'hydrofracturation, ce méthane est capable de passer dans l'eau, et on retrouve effectivement ce méthane dans les eaux, dans les puits, dans les puits qui servent à l'alimentation en eau potable. Donc là, il y a une démonstration scientifique, que le méthane extrait à partir des zones de fracturation peut se retrouver dans l'eau des puits qui servent donc à la consommation. Alors les mécanismes du passage du méthane, les auteurs éliminent certaines hypothèses, mais en gardent quelques-unes. Effectivement, ça serait surtout à travers des failles qui seraient existantes ou qui auraient été augmentées par les processus d'hydrofracturation que ce méthane petit à petit arriverait à cheminer et donc à se retrouver dans l'eau de consommation. Le deuxième aspect, c'est la pollution de l'air, je vous l'ai dit. Donc, tout d'abord, il y a les phénomènes de torchage, hein, c'est-à-dire quand on voit les torchages, donc ça aussi, ça génère de la pollution atmosphérique. Les émanations aussi des produits chimiques, parce que donc, il faut savoir c'est que lorsque le méthane est extrait à partir de la zone d'hydrofracturation, à 2-3 000 mètres sous terre, il est ensuite récupéré, pompé à la surface. Et c'est un mélange, donc il y a l'eau, ce sont des boues extrêmement dégueulasses, l'eau, le sable et puis le méthane. Et arrivé en surface, donc il y a des processus de séparation pour isoler le méthane de toutes les boues qui contiennent, bien sûr, donc le sable, la terre qui a été extraite et puis les produits chimiques. Et bien tout ça est mis dans des bassins de décantation. Et ce sont des bassins de décantation à ciel ouvert. Alors c'est des bassins de décantation qui sont réalisés avec des géomembranes étanches, mais pas toujours étanches, puisqu'il y a des accidents, il y a eu des géomembranes qui se sont fissurées. Et puis, donc, il y a, d'orages très violents, il y a eu des débordements de ces bassins de décantation. Et il y a aussi, effectivement, comme il y a des produits chimiques volatiles, suivant la température, en particulier en plein été, il y a évaporation et émanation des produits chimiques volatiles qui s'échappent donc de ces bassins de décantation et qui contaminent joyeusement l'air environnant. Et dans le film Gasland, on voit, et donc ça a été rapporté à plusieurs occasions, les personnes qui vivent autour, bien sûr, se plaignent de troubles sensoriels, de troubles respiratoires, de troubles oculaires, de troubles, certains ont des troubles nerveux, et puis aussi le bétail qui vit au voisinage dans ces puits, ces puits d'extraction, bien, il y a eu des morts inexpliquées. Des vaches bon, qui sont mortes, comme ça, on les a retrouvées allongées par terre. Paraît-il, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette pluie d'oiseaux morts qu'il y a eu aux États-Unis, paraîtrait-il, bon là il n'y a pas de preuves formelles scientifiques, mais paraîtrait-il que ça proviendrait des émanations de méthane et de tous ces produits volatiles qui s'échappent de ces bassins de décantation qui, au niveau de l'atmosphère, aurait peut-être entraîné donc l'intoxication de ces oiseaux qui seraient donc tombés comme des mouches sur le sol. Mais bon, là, il n'y a pas quand même de... C'est une hypothèse. Hein. Et puis, donc, une troisième source de pollution atmosphérique liée à l'activité gaz de schiste, eh bien, c'est tout le trafic incessant des camions qui apportent l'eau, s'il n'y a pas de canalisation, camions qui apportent les produits chimiques, qui apportent le sable, camions qui récupèrent le gaz qui a été comprimé, récupéré, camions qui récupèrent ensuite, les bassins de décantation, l'eau, en attendant que donc, l'eau qui est dans les bassins de décantation, elle est là, en attendant qu'elle soit récupérée pour être traitée. Donc là aussi, il y a des camions qui récupèrent l'eau des bassins de décantation pour être donc traitée, pour être dépolluée, entre guillemets. Donc, vous voyez, il y a une noria incessante de camions, et c'est bien ce qui est montré aussi dans le film Gasland, où on voit donc un manège incessant, une noria de camions, mais alors, puis ce n'est pas des petits camions, hein, c'est des gros camions, hein, des 35 tonnes, qui n'arrêtent pas de circuler. Donc, on imagine volontiers, dans les petites routes de l'Ardèche ou de la Corrèze, on imagine volontiers tous ces camions qui passeraient comme ça sur les petites routes pour assurer le transport de tous les produits. Alors les conséquences sanitaires, bien j'en ai un petit peu parlé. Hein. Donc toujours la même équipe de Theo Colborn aux États-Unis a fait une étude sur 353 molécules qu'ils ont pu réussir à identifier. Et donc effectivement, 75% de ces molécules affectent la peau, les yeux, les organes sensoriels. 50% de ces molécules affectent le cerveau, le système nerveux, le système gastro-intestinal et le système respiratoire. 40% des molécules ont des effets potentiels sur l'immunité, 40% sur le système rénal, et environ 45% de ces molécules ont une action sur le système cardiovasculaire et sur le sang. Donc ça, bien sûr, je vous parle là d'effets potentiels. Et donc, en ce qui concerne les effets constatés, parce que jusqu'à présent, je dirais malheureusement, on ne dispose pas d'études scientifiques vraiment validées sur les effets sanitaires. La seule chose que l'on peut dire, effectivement, c'est des effets potentiels à travers la toxicité connue de ces molécules. Mais jusqu'à présent, on dispose de témoignages de personnes, donc d'habitants, de populations résidant à proximité de ces puits d'extraction. C'est ce qui est montré encore une fois dans le film. Et donc, effectivement, les gens rapportent des problèmes sanitaires, des toux, des vomissements, des fatigues inexpliquées, des fièvres aussi, des convulsions, des allergies. Et donc, comme je vous disais aussi tout à l'heure, des problèmes de mortalité de bétail. Il faut savoir qu'à peu près aux États-Unis, il y a une carte interactive sur Internet qui existe où on recense environ plus d'une cinquantaine d'accidents qui ont été répertoriés autour des puits d'extraction lors des accidents, soit des explosions, soit des émanations accidentelles, etc., des fuites accidentelles. Et bien sûr, tous ces accidents sont générateurs de pollution et donc d'effets sur la santé à court terme. Alors à long terme, bien sûr, donc Fabrice l'a dit, ça date à peu près de 2003, donc on n'a pas assez de recul à long terme pour pouvoir dire, pour pouvoir affirmer un impact sur le développement de certaines pathologies. Il nous faudrait beaucoup plus d'années. C'est pas que je veuille que les gaz de schiste durent longtemps pour pouvoir avoir une idée de leur toxicité, loin de là, bien sûr. Mais quand on sait effectivement qu'il y a des molécules qui sont cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, donc on peut malheureusement imaginer que ces molécules puissent induire à terme une augmentation de l'incidence des cancers. En ce qui concerne les perturbateurs endocriniens, ça peut être une augmentation de l'incidence de maladies métaboliques comme le diabète, l'obésité, etc. Alors, il y a aussi un aspect très important que j'ai oublié de parler, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la zone d'hydrofracturation. Il y a un très beau rapport qui a été réalisé écrit par le chimiste toxicologue André Picot, qui parle de la notion de réacteur chimique à l'intérieur de la Terre. Et effectivement, il faut voir que lorsqu'on injecte, on injecte donc à l'intérieur de ce mélange sous très forte pression. Donc il y a le phénomène de la pression, ajouté aussi au phénomène de la chaleur, parce qu'à 2-3 mm sous terre, je ne sais pas combien on peut être de degrés de température, mais c'est certainement très chaud. Donc il va y avoir une combinaison entre toutes ces molécules, donc sous l'effet de la pression et de la chaleur combinées, il va y avoir donc des réactions chimiques qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est un véritable réacteur chimique qui se passe à l'intérieur de la Terre, et ces molécules-là qui sont donc produites de façon accidentelle sous l'effet de ces réactions chimiques, eh bien remontent à la surface, puisqu'on réaspire le mélange d'hydrofracturation. On remonte également à la surface des éléments radioactifs, ça a été montré dans une étude qui est parue dans le New York Times, où effectivement des éléments radioactifs naturels qui sont emprisonnés sous terre, eh bien remontent à la surface et donc entraînent une plus forte concentration de ces éléments radioactifs à l'endroit de l'exploitation des gaz de schiste. Voilà. Voilà, mais je crois que... Alors, juste pour finir, je voulais parler effectivement de ce qu'on entend dire, le pré-rapport du CGIET et du CGED. Alors, je serais incapable de dire c'est le CGIET, c'est...
Le Conseil général de l'industrie et des technologies et quelque chose comme ça.
Voilà. En fait, c'est le Conseil des mines. Hein. Voilà, c'est le Conseil des mines, hein, c'est ça. Je crois que c'est plus simple de dire ça. Donc, il y a un pré-rapport qui est sorti. Et c'est un rapport, pour reprendre le terme de mes collègues, c'est un rapport d'enfumage. Effectivement, on a l'impression que ça y est, on est prêt à nous proposer une technologie d'extraction des gaz de schiste qui soit propre. Il parle d'une douzaine de produits. Alors, c'est très amusant parce que je crois que j'ai cité le truc quand même. Oui, voilà, c'est ça. Ils disent que, bon, on va pouvoir utiliser une petite douzaine de produits et on va utiliser, alors je cite, des produits qui sont issus de l'industrie agroalimentaire, tels que les dérivés agar-agar, utilisés pour gélifier des ice cream et des confitures. Je ne rigole pas, c'est marqué dans la lettre de l'Amicale des foraires et des industries pétrolières. C'est une lettre, du bio, bien sûr, oui, il a raison, autant faire bien quand même. C'est une lettre de l'Amicale des foreurs donc aux députés où ils utilisent donc ce terme. Ce sont des produits qui sont utilisés dans l'agroalimentaire. Donc on a envie de dire, tout le monde se lève pour les gaz de schiste. Pas pour Danette, mais pour les gaz de schiste. Donc vous voyez un petit peu l'espèce de malhonnêteté intellectuelle qui est entretenue par à la fois l'industrie et par donc effectivement ce Conseil des mines. Je termine, voilà. Donc, quand bien même il n'y aurait aucun produit chimique qui serait utilisé par l'hydrofracturation, on laisse tranquille les ressources fossiles, on n'y touche pas. Donc, pas de gaz de schiste, ni ici, ni ailleurs. Et je rajouterai, ni maintenant, ni plus tard. Jamais.